La Voix de l'Emploi, une série d'émissions consacrée à la valorisation des acteurs de l'économie, de l'emploi et de l'insertion. Ce projet, réalisé par Radio Ondaine, est financé dans le cadre de la politique de la ville par l'État et Saint-Étienne Métropole.
Dans le cadre de nos émissions La Voix de l'Emploi, Radio Ondaine vous propose aujourd'hui un sujet autour de la création de sa propre activité. Naturellement, la création d'entreprise est fastidieuse dans ses démarches et les porteurs de projets peuvent être accompagnés par un réseau de structures rassemblées sur Saint-Étienne Métropole dans le dispositif La Fabrique à Entreprendre. Radio Ondaine vous invite tout d'abord à entendre Félicien Ris à quelques jours de l'ouverture de sa librairie indépendante Les Intrus.
Je suis Félicien Ris, j'ai 30 ans tout juste. Je porte aujourd'hui le projet d'une création d'une librairie spécialisée BD sur le centre-ville de Saint-Étienne. L'idée, c'est de vendre des romans graphiques essentiellement sur une librairie indépendante et voilà, en étant le plus large possible, mais en proposant surtout mes coups de cœur et la nouveauté.
Alors, comment on se met en tête que l'on veut devenir libraire ?
Alors, c'est vrai que de lecteur à libraire, il y a quand même un gap, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Moi, j'étais gros lecteur, et puis voilà, petite expérience en librairie. J'ai compris que j'adorais aussi partager, vendre, mais c'est pas pareil. Donc, j'ai fait une formation à l'École nationale du livre, qui m'a permis de découvrir un peu ce que c'était que d'ouvrir un magasin, voilà, sur les aspects de gestion. Donc la formation Créer ou reprendre une librairie m'a permis de faire des stages et d'échanger vraiment avec des professeurs compétents et de construire ce projet.
Alors l'idée est là, le projet est en train de se monter dans sa tête et puis il faut arriver vers des choses un peu plus concrètes. Quelles ont été les premières étapes dans la mise en route de votre projet de librairie ?
Alors à la sortie de cette formation, j'avais encore un suivi, un accompagnement, mais tout de suite je suis passé par des rendez-vous à la chambre de commerce pour un peu cerner les différentes étapes, les premières étapes en tout cas, voilà, chiffrer les choses, construire un prévisionnel, être bien accompagné, on y reviendra. Et puis, parallèlement, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, qui s'occupe vraiment, qui chapeaute tous les métiers du livre. Donc là, j'ai eu aussi des bons échanges pour bien construire le projet, construire une étude de marché, et puis, voilà, bien cibler le cœur de mon activité. Et puis voilà, après, bien m'entourer au niveau comptable, niveau banque et niveau... moi, ce qu'il a fallu tout de suite, c'était chercher un local. Donc je suis passé par RDD, Rue du Développement Durable sur Saint-Étienne, de Créfad, et puis l'EPAS, qui m'a permis de trouver le local dans lequel je vais m'installer.
Alors ce sera donc rue Louis Braille, la librairie va s'appeler Les Intrus. Ce local-là, comment vous le décrivez ?
Alors c'est l'ancien local du magasin Au Tapis Vert rue Louis Braille, je sais que ça parle souvent. C'est un local qui était vacant depuis 2-3 ans maintenant, mais voilà, moi je crois beaucoup à la dynamique de quartier avec le Square Eden qui arrive, avec des commerces, je pense au Pain du Loup, je pense à 20 pas des marches au-dessus, l'Atelier du Coin, j'en oublie, mais non, c'est une rue qui est amenée à renaître un petit peu. Moi j'y crois, c'est un local que j'aime beaucoup et... voilà, qui va offrir, je pense, un bel espace de vente. J'aurai aussi une petite salle d'exposition. Voilà, il y a une surface de 100 mètres carrés qui sera un peu découpée, voilà, en 60 mètres carrés d'espace de vente. Il y a des belles vitrines, il y a une belle luminosité. C'est un lieu qui a une histoire aussi. Donc voilà, ça me tenait à cœur de le reprendre. Je pense que c'est un lieu qui parle aux gens et voilà.
Alors, la création d'entreprise, ce sont des démarches à effectuer. Et il existe à Saint-Étienne la Fabrique à Entreprendre. C'est un dispositif qui réunit plusieurs structures qui vont dans ce sens-là pour accompagner des personnes qui ont le désir de créer leur propre activité. Comment vous êtes rentré la première fois en contact avec la Fabrique à Entreprendre ?
On m'avait donné le contact de Richard Cerezo, du coup, à la MIF, que je remercie énormément, qui m'a accompagné, surtout qui m'a aidé à prendre confiance en mon projet. Au début, ça devait être une reprise, mais je suis parti vite sur une création. voilà, être bien entouré. C'était parce qu'au début, quand on connaît pas de comptable, quand on connaît pas de banquier, quand on connaît pas où chercher un local, voilà, moi j'étais seul sur le projet aussi. Je suis assez jeune, c'est une reconversion, donc prendre beaucoup de confiance dans mon projet, se dire qu'à chaque problème il y a une solution, il y a des gens derrière. Et voilà, le rôle de la MIF, ça a été de m'entourer, de m'accompagner sur ça et vraiment de m'aider à m'ancrer localement.
Alors, les différents rendez-vous que vous avez pu avoir, quels sont-ils ? Est-ce que l'on repense son projet ? Est-ce qu'on le réfléchit ? Est-ce qu'on demande des conseils ici et là pour ensuite partir sur une base qui peut paraître la plus stable possible ?
Moi, la chance que j'ai, c'est qu'en librairie, il y a un prix unique du livre, c'est les mêmes distributeurs pour tout le monde. Donc, c'est le projet en soi, il est simple, c'est une création d'une librairie SPBD. Après, oui, est-ce que j'ai cherché un petit peu, est-ce que je fais de l'occasion, est-ce que je fais un café ? Voilà, pour moi, c'était clair, c'est un commerce, une librairie le plus simple possible. Donc, il n'y avait pas grand-chose à redéfinir ou redéfinir. Par contre, comment s'implanter localement ? Dans quel quartier aller, le réseau énormément sur. J'ai lancé une petite cagnotte de financement participatif, donc travailler avec Saint-Étienne Métropole. Je suis allé sur l'économie sociale et solidaire également. Donc ça a été vraiment discuter avec tout le monde, savoir ce qui se fait déjà, ce qui est possible, essayer d'être le plus innovant possible dans ce que je vais faire. Donc voilà, ça a été surtout prendre de l'expérience auprès des gens qui en ont.
Il y a aussi le nerf de la guerre, c'est le financement, comment on finance sa création d'activité. Il faut chercher de l'argent. Et puis cet argent-là, il faut avoir la confiance de plusieurs personnes qui pourraient prêter cet argent. Comment ça se passe ça ?
Alors deux choses, je me suis rapproché d'Initiative Loire et Loire Active, donc qui ont la possibilité de prêter à taux zéro des prêts d'honneur de 10 000 euros et pour Loire Active de se porter garant du prêt bancaire. Donc quand on a un petit peu la validation de ces deux comités, c'est plus simple pour trouver une banque, c'est plus simple pour avoir un apport personnel plus conséquent. Donc j'ai été très bien accompagné dans ces deux structures pour monter un dossier. Donc j'avais travaillé mon prévisionnel en amont avec mon cabinet de comptable. Mais il y a eu un accompagnement assez fin de ces deux structures. Je suis passé en comité, j'ai obtenu les réponses positives des deux comités. Donc après, pour les banques, c'était plus simple d'avoir, une fois que j'avais un petit peu le tampon d'Initiative Loire et de Loire Active, c'était plus simple. Donc après, je suis allé voir deux banques. Les taux aujourd'hui sont assez élevés, mais j'ai eu des propositions. Et puis voilà, j'avais besoin... L'idée, c'était de diminuer l'apport personnel au maximum. Voilà, j'ai eu un peu ce que je voulais. Ça n'a pas été simple parce que c'est un marché où on ne peut pas augmenter sa marge, où on se dégage un petit salaire. Donc, ça, les banques, il n'y a pas vraiment d'évolution possible, si ce n'est que la viabilité du projet. Mais voilà, j'ai eu quelques aides aussi, monter des dossiers de subventions avec la mairie pour les travaux. Enfin, il y a énormément de volets dans la création d'activités. Donc j'ai essayé de regarder un peu partout, mais globalement, j'ai pas eu grand-chose. J'ai pas été suivi par la région sur le livre. Je rentrais pas forcément dans les bonnes cases, alors que je suis sans activité, que j'ai 30 ans et que je crée mon commerce, mais bon, c'est pas grave.
Alors si l'on revient à la fabrique Entreprendre, à la MIF et donc Richard Cerezo, qu'on entendra tout à l'heure dans cette émission-là, quels ont été ces mots, ces mises en garde, ces conseils et la motivation qu'il peut vous donner dans les différents rendez-vous que vous avez pu avoir ?
Ça a été vraiment un contact humain très important. Je pense que j'en manquais beaucoup dans mon accompagnement. Des fois, on passe des coups de fil, on n'a personne au bout, ou on ne sait jamais, c'est jamais les mêmes interlocuteurs. Là, avec Richard, il y a vraiment eu un lien très fort sur vraiment une prise de confiance. Et ces mots, ça a été vraiment de croire en mon projet. Il y a eu des rebondissements, donc de toujours garder... une certaine confiance dans ce que je sais faire, dans ce que je sais pas encore faire, c'est-à-dire aller chercher de l'aide auprès de structures, auprès de personnes compétentes. Donc voilà, ça a été vraiment à chaque problème il y avait une solution, comme je disais, et surtout localement avec des gens derrière, avec des structures, et voilà, beaucoup de confiance.
Alors, à la veille de l'ouverture de cette librairie Les Intrus. Si l'on doit regarder dans le passé, ça, on met combien de temps en fait entre l'idée et la concrétisation à venir du projet?
Bah, une des premières pierres essentielles, ça a été d'obtenir le local. Donc, je suis passé par l'EPAS, donc comité à l'office de commerce de la mairie. Ça, c'était donc en juillet 2022. Donc, ça fait un an, presque et demi, que je sais où je vais être. Avant, il y a déjà eu la recherche du local. Voilà, donc ça fait plus de 2 ans que je sais que je veux créer ma librairie. Voilà, le local, les travaux ont pris un peu de retard. Voilà, tout est long et je pense que c'est pas plus mal aussi. Ça m'a permis de lancer la communication Facebook, Instagram, de bien travailler ce que je voulais faire, mon image, mon logo, le nom. C'est des choses qui ont pu être construites assez assez lentement et au final voilà, j'ai eu mon designer graphique Clément Abrial, que je remercie beaucoup, qui m'a beaucoup aidé. On a pris le temps aussi de construire toute cette identité graphique, donc voilà, c'était pas plus mal de prendre le temps, mais je dirais bien 2 ans déjà depuis que l'idée est implantée.
Alors, bientôt le lancement, l'ouverture. Ici, est-ce que vous allez aussi encore bénéficier d'un accompagnement de ces structures implantées localement qui peuvent faire partie de la fabrique à entreprendre?
Alors, j'ai eu, du coup, grâce à Richard, le contact de Loire Agir aussi, et Daniel Parizeau. On est allé chercher des petites subventions qu'on n'a pas forcément obtenues. Donc je sais que c'est des structures qui peuvent m'apporter de l'aide sur voilà, ils ont des gens qui ont de l'expérience, qui ont créé des entreprises, donc voilà, je pense qu'on fera un point d'ici quelques mois, savoir ce que je peux modifier. Oui, je sais que je serai pas lâché, que j'aurai toujours un suivi, donc à voir comment, mais voilà, je sais que quand j'aurai des questions, des problèmes, je pense que j'aurai toujours des interlocuteurs derrière.
Alors, l'ouverture prochaine de cette librairie Les Intrus, pour nos auditeurs, quels vont être les horaires d'ouverture, quels vont être un peu les services que vous allez proposer dans votre boutique?
Alors, du mardi au samedi, 10h, 19h, au 22 rue Louis Braille. Librairie plutôt adulte, spécialisée BD, indépendante, roman graphique, mais tout en proposant tout. Il y aura un rayon jeunesse, un rayon manga jeunesse, un rayon science-fiction, comics, mais petit, voilà, le cœur de ma librairie, ce sera le roman graphique, les coups de cœur, la nouveauté, et puis donc une petite salle d'exposition. L'idée, c'est d'exposer des artistes locaux, graphiques, pas forcément que de la BD, peut-être de la photo, et surtout d'animer des ateliers, donc avec un jeune public, avec des ateliers plutôt où ça parle BD, et avec peut-être les médiathèques, avec des centres sociaux, voilà, c'est en cours d'élaboration. Par contre, ce qui marche énormément en librairie, c'est la rencontre avec les auteurs, les autrices, la dédicace, donc pourquoi pas tourner ça autour d'expositions, de vernissages, au lancement d'une BD, voilà, c'est des choses qui sont prévues. L'idée, c'est de faire un lieu dynamique, qui soit, pourquoi pas, des petits concerts BD, voilà, ça existe, et ce sera possible à la librairie. Et je remercie aussi Noémie Bourbon, qui est ma designer, qui m'a aidé sur l'aménagement du local, à penser les meubles, la cohérence graphique de l'ensemble. Et voilà, elle a fait un super boulot. J'ai hâte que les choses se concrétisent dans le local. Et voilà, je la remercie énormément pour tout son travail.
Félicien Risse a souvent cité Richard Cerezo dans notre discussion. Richard Cerezo travaille à la MIF et il nous parle de la fabrique à entreprendre de Saint-Étienne Métropole dont il est le coordinateur. Bonjour Richard, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine et dans cette émission La Voix de l'Emploi. La fabrique à entreprendre de Saint-Étienne Métropole, c'est un dispositif qui existe depuis quelques années. On va en parler, mais parlons peut-être de votre structure à laquelle vous êtes attaché, c'est la MIF.
Oui, bonjour, la MIF, c'est la maison pour l'information, la formation et l'emploi. C'est une structure associative. J'y suis attaché à plein de titres, mais surtout parce que c'est une structure d'accueil inconditionnelle, libre et gratuite. C'est une association qui n'a absolument rien à vendre à part offrir du temps d'accueil et de réponse aux personnes qui auraient tout type de questions sur son orientation professionnelle.
Alors, situé géographiquement à Saint-Étienne, à la Maison de l'Emploi, dans le quartier de Tarentaise-Beaubrun, juste en face de la gare du Clapier, c'est un lieu où on retrouve finalement beaucoup de structures qui font partie du réseau de la fabrique à entreprendre de Saint-Étienne Métropole. Alors, la FAE, comme on peut l'appeler de temps en temps, qu'est-ce que c'est ?
La fabrique à entreprendre, c'est un collectif informel d'à peu près 15 structures différentes. Donc on retrouve tous les acteurs et actrices de l'entrepreneuriat au sens large. Donc on retrouve du financement, de l'accompagnement, de l'incubateur, de la pépinière. Voilà, c'est très très large, c'est tous les outils nécessaires quand on veut créer, dans quel que soit le domaine, tout ce dont on aurait besoin pour créer l'entreprise. Et là on se coordonne ensemble pour créer des actions.
Alors effectivement, dans la recherche d'un emploi, dans l'envie de changer d'activité, il y a cette question-là de créer sa propre activité et donc son entreprise. Et c'est un système d'accompagnement du début jusqu'à la fin quasi.
C'est exactement ça. L'objectif, c'est de ne porter aucun jugement sur le porteur de projet ou son projet. C'est de le prendre tel qu'il arrive et de regarder quels seraient les outils dont il a besoin en fonction de sa maturité, de son envie, de son évolution. Donc on le prend comme il est, on l'analyse ensemble, donc on n'a aucun poids là-dessus, donc on n'a aucun moyen de coercition, bien au contraire, on est là pour l'accompagner, on est des aidants, des accompagnants.
Alors est-ce que c'est ouvert à tout le monde ?
C'est absolument ouvert à tout le monde. Alors bien évidemment, on va faire un effort bien plus poussé vers les publics qui sont dans les quartiers politiques de la ville, qui couvrent l'ensemble du territoire de Saint-Étienne Métropole. On a quand même 15 quartiers sur 8 villes différentes, donc ça fait quand même un maillage un peu plus important. On va d'abord là où c'est compliqué, puisque dans les autres zones, en général, on est déjà bien outillé, que ce soit pour des écoles de commerce ou que ce soit pour des structures d'accompagnement un peu plus classiques.
Alors, il peut y avoir des porteurs de projets qui ont des idées avancées et d'autres qui viennent à tâtons pour se renseigner. Donc, le parcours type, s'il existe un parcours type, et je ne pense pas parce que chaque projet est différent, mais quelle va être la première porte d'entrée pour une personne à n'importe quel moment de sa réflexion ?
On aime à dire que la MIF, donc l'association, se positionne en porte d'entrée puisqu'on a d'abord une vocation d'accueil au sens large. Quand on veut entreprendre, donc on a l'intention d'entreprendre, surtout quand c'est au démarrage, on a aussi une jonction à faire avec soit son parcours professionnel, soit son parcours de formation. Et donc là-dessus, on a pour but, nous, d'être porte d'entrée et ensuite d'orienter vers les structures qui sont un peu plus dédiées.
Alors, on réfléchit à quoi dans ces structures-là ? Le positionnement juridique de l'entreprise, le financement, l'emplacement, enfin, quels sont les champs d'action sur lesquels agissent et sont actifs les structures de la fabrique à entreprendre ?
Alors, on essaye de couvrir un maximum de champs. Alors, c'est très compliqué parce que du coup, c'est très attaché à chaque profil, chaque spécificité de métier, mais on s'y tient sur beaucoup de champs sociaux et socio-pro.
D'accord.
Donc on va sur de la médiation santé, on va sur de l'insertion, on va sur de la formation linguistique, donc on oriente beaucoup là-dessus. Ensuite on a tout le panel un peu plus classique qui brille un peu plus, qui sont souvent les étapes d'après, qui sont le financement, l'atterrissage sur un local ou l'accompagnement en pépinière. Mais nous on essaye de faire tout ce qui est un peu en amont, parce que c'est ce qui manque souvent, c'est le premier niveau d'accueil et c'est le bonjour en fait qui manque, le bonjour inconditionnel et libre.
Alors, à l'instar de ce que nous a dit Félicia Ries, qui va ouvrir sa librairie d'ici quelques jours maintenant, c'est un parcours qui a été plus ou moins long pour lui, 2 ans. Alors, est-ce que c'est aussi cette durée-là, c'est une durée moyenne ? Est-ce que vous établissez aussi des calendriers qui s'étalent ?
Ah oui, alors on s'adapte, ça c'est sûr. La première chose, c'est qu'on fait à chaque fois du cas particulier, on fait de la dentelle. Sur chaque personne, on essaye de ne pas le contraindre sur un calendrier. Pour le sujet, le cas de Félicien, on a d'abord travaillé sur un rachat de fonds de commerce qui a finalement pas pu aboutir. Donc du coup, il a dû trouver un autre atterrissage géographique. Donc du coup, ça forcément, il y a des rebonds. Et c'est aussi la capacité d'un entrepreneur est aussi évaluée à ça. C'est capacité à faire avec ce qu'il a au moment, à l'instant T. Et nous, on l'aide à surmonter, dépasser ces sujets-là pour à chaque fois trouver des nouvelles solutions et toujours avoir une capacité de rebondir.
Alors l'accompagnement peut être d'une manière théorique, entre guillemets, mais aussi il faut du concret. Le financement, c'est du concret. Quand on parle de financement dans le cadre de la fabrique à entreprendre, quel est-il ? On évoquait juste avant des prêts à taux zéro, préférentiels. Expliquez-nous un peu, quand on arrive dans cette partie-là, quelle structure est spécialiste de la question ?
Il y en a beaucoup. Alors on va croiser sur du banque traditionnelle, bien évidemment, qu'on se penche aussi sur ces sujets-là, ces acteurs importants. Mais on va aussi aller embrasser des sujets comme des fondations qui font de la subvention. On va embrasser des sujets qui font du microcrédit, du prêt d'honneur, de la garantie. On a au-delà du financement sonnant et trébuchant avec un chèque, on a aussi des financements qui vous accompagnent et qui vous payent une partie de vos statuts juridiques, par exemple, ou de votre accompagnement assurantiel. Voilà, on a aussi d'autres manières de financer qui sont aussi des manières détournées, mais qui sont d'une certaine manière de l'argent qui ne sera pas dépensé de la poche du créateur. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas et on compose avec les besoins de la personne, toujours.
Alors, de l'expérience de ce dispositif de la fabrique à entreprendre, quel est le regard qu'on porte sur ces années, sur la viabilité des projets ? Est-ce que vous faites un suivi aussi pour voir si ces projets ont été viables, existent encore, et une analyse peut-être des accompagnements qui ont été faits ?
Alors ça, c'est vraiment le summum de l'accompagnement, c'est ce qu'on essaye de faire. On s'évertue à chaque fois à garder un lien, ou en tout cas motiver un lien. On ne peut pas forcer les personnes, on ne les prend jamais au piège. Ce ne sont pas des faire-valoir non plus, on fait attention à ça. Donc en effet, on essaye de nouer d'abord et de continuer dans ce qu'on avait fait, un lien de confiance du démarrage, et on essaye de le garder sur la continuité. Si on fait bien notre travail, en général, ça revient en partie, de manière assez naturelle et assez humaine. Des fois, on va le chercher parce qu'on a envie aussi de prendre des nouvelles pour être sûr que la personne ne se retrouve pas un petit peu sur le bas-côté et qu'on ait un peu oublié de regarder dans le rétroviseur. Donc, on fait attention à ça. On a une démarche d'aller vers, toujours, même une fois que la structure est créée. Là, on est en pleine période où personnellement, je rappelle mes profils du début de l'année parce qu'on est 3-6 mois. Donc, on peut se prévaloir d'une rentrée en se disant, bon, alors, quelles ont été les nouvelles de l'été, comment on peut avancer ensemble, est-ce qu'il y a encore un besoin, oui ou non, et s'il y en a un, on se refixe un rendez-vous et on refait un point et on avance.
Alors on parlait de la porte d'entrée qui pouvait être la MIF, quel est aussi le chemin, on passe par quoi ? Par des interventions collectives pour comprendre un peu le principe, on choisit ensuite les structures vers qui on va aller selon son activité, quelqu'un qui a son idée, qui arrive, qui passe à la MIF, il faut qu'il s'attende à quoi en termes de réunion, de concertation, de rendez-vous ?
Alors, premier contact, on y tient, et j'y tiens énormément, c'est un contact individuel, sans contrainte, on a au minimum une heure pour échanger librement. Et là, à partir de ce moment-là, on a commencé à dresser les premières bases du besoin de la personne et on va commencer à proposer des mises en relation, des contacts en fonction, pour répondre à ces besoins-là. Ça, c'est le premier outillage. Si on fait bien cette orientation-là, en général, on a des échos, on arrive à se faire des réunions à plusieurs acteurs avec le profil et on se recroise aux besoins de la personne. On est vraiment en accompagnement, nous sommes des aiguilleurs du ciel d'une certaine manière, on leur donne la piste, les prochaines étapes, et ils ont toujours la possibilité de nous rappeler par la radio, par le mail, pour nous dire « Hey, bonjour, j'en suis là, finalement j'ai besoin d'un nouveau coup de main ». Voilà. Donc on est vraiment sur un accueil individuel, et après on engage en fonction de la personne et de son besoin, du collectif, ou alors de l'accompagnement un peu plus poussé.
Alors, on a fait écho sur l'antenne de Radio Ondaine d'un certain nombre de forums de l'emploi et de l'entrepreneuriat où des structures de la fabrique à entreprendre et la fabrique à entreprendre est présente, notamment sur le marché. Hein, c'était aussi avec vous à Rive-de-Gier, ce côté aller vers. Comment on en parle aux gens, au grand public ?
On en parle sur leur base de souvent leurs inquiétudes et leurs problématiques. Ils se posent la question de est-ce que je peux le faire, est-ce que je dois le faire et est-ce qu'il y a une méthode. Alors on répond à chaque fois qu'on n'a ni la boule de cristal ni une baguette magique, mais que tout se passe dans la capacité de la personne à se mobiliser, à son envie de se mettre en situation de création et à répondre et à faire des choix vis-à-vis de cette future création d'entreprise. Tout est possible, c'est ça qui est génial dans la création d'entreprise. On peut le créer sur ses passe-temps, on peut le créer en complément ou on peut le créer de plein chef pour en être son propre acteur au quotidien. Encore une fois, on part vraiment des besoins de la personne et on dit que rien n'est figé. C'est ça qui est génial également, c'est qu'on peut se réinventer entrepreneur à chaque fois. C'est pas la première qu'on réussira forcément, ni qu'on aura un échec d'ailleurs. On fait à peu près ce que l'on peut et on fait surtout avec beaucoup d'ardeur. C'est ce que je leur explique à chaque fois, c'est que le seul artisan de la réussite ou de l'échec, c'est vous. Donc du coup, soyez accompagnés, on est là pour être aidant, mais soyez vous-même en position de leader. Ne laissez personne dicter votre conduite, c'est une sorte d'émancipation possible pour vous, à condition que vous en ayez vraiment toutes les capacités. Et là, on va vous aider à les obtenir, à les avoir, à vous affranchir également de tous les codes que vous pouvez avoir historiquement dans votre vie salariée, et de dire le salariat, c'est pas forcément une bête à tuer, l'entrepreneuriat non plus, mais les deux peuvent cohabiter bien évidemment.
Alors, de votre expérience, y a-t-il des périodes propices pour se lancer dans ce chemin sur la création d'entreprise, de venir vous voir ? Est-ce que il y a des périodes qui sont favorables au lancement d'un projet ?
Alors, favorable à lancement d'un projet, ça dépendra de la personne, je vais dire ça, c'est facile, mais ce que l'on s'évertue, nous, c'est d'interpeller le plus tôt possible la capacité au niveau des étudiants, au niveau des jeunes ados, à se dire on peut aussi le faire, et de aussi aborder des sujets un peu soit tabous, soit rapidement répondus, qui sont l'auto-entrepreneuriat, c'est facile, on y va et c'est simple, l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat ou n'importe quelle structure, c'est de l'entrepreneuriat. Donc du coup, il y a des impacts, il y a des implications, il y a des obligations, il y a des contraintes. Et ça, on essaye de l'aborder le plus tôt possible. Donc quand j'ai envie de dire, plus tôt on aura abordé ce sujet-là, notamment dans les cursus de formation, pour que chacun et chacune puisse faire un choix le plus éclairé possible, sachant qu'il n'y a ni l'une ni l'autre des voies qui est une voie favorable ou favorisable. On doit d'abord s'écouter ce qu'on a envie de faire et ce qu'on doit faire. Ça correspond en fonction aux affects des uns et des autres.
Alors, pour vous contacter, pour se renseigner sur la Fabrique à Entreprendre, quelle est la meilleure porte d'entrée au-delà de la MIF, ou si on veut se renseigner sur Internet par exemple?
Alors, il y a le site de la MIF qui a aussi son agenda sur lequel vous avez tous les événements des acteurs, partenaires ou co-animateurs. Le mieux, c'est encore un numéro de téléphone, ou encore mieux, c'est de se déplacer si on peut le faire. Nous, on a une présence régulière en permanence, hebdomadaire, dans à peu près tous les quartiers politiques de la ville. Donc, on va de Rive de Gier, Saint-Chamond, on va sur Saint-Étienne, on va même sur la Plaine et on va Vallée de Londaine, bien évidemment. L'idée, c'est d'être le plus disponible possible. Donc, téléphone, physique, mail, c'est vraiment au choix des individus. On fonctionne beaucoup par prescription également, c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup avec des acteurs du terrain, dans toute leur variété. L'objectif, c'est d'ouvrir les vannes et de dire on est disponible, on est une association libre, ouverte, sans conditions, sans contraintes, neutre, financée par de l'argent public au bénéfice des usagers. Voilà, donc on est vraiment une première accroche. Donc le numéro de téléphone, le site mail, tout ça marche.
Nous terminons cette émission La Voix de l'Emploi avec une rencontre dans son atelier de couture Émeraude Zali Création avec Zalia Hassani à Rive de Gier.
Bonjour, je m'appelle Hassani Amada Zalia, j'ai 30 ans et j'habite à Rive de Gier.
Alors vous habitez à Rive de Gier, mais pas seulement, vous travaillez aussi à Rive de Gier et vous travaillez dans cet atelier de couture Émeraude Zali Création.
Oui, voilà, exactement, et ça fait un an et demi que je suis à Rive de Gier, et puis voilà, maintenant je suis auto-entrepreneuse, j'ai ouvert mon atelier de couture aussi rue Roquille à Rive de Gier.
Alors, comment on devient auto-entrepreneuse et comment on arrive à accéder à un local tel que celui-ci? Si je le décris un peu, eh ben, on a des machines à coudre, on en a plusieurs, on a une banque, un comptoir, on a de quoi présenter vos créations aussi. Expliquez-nous un peu le parcours et puis les différentes démarches que vous avez effectuées.
Oui, alors, auparavant, comme je l'ai expliqué, ça fait pas longtemps que je suis arrivée de chez, j'ai été suivie par le Pôle emploi. J'ai fait une formation pour devenir auto-entrepreneuse. Ils nous expliquaient un petit peu les casquettes du patron. Et puis, par la suite, quand je suis arrivée à Rive de Gier, j'ai été suivie avec la maison départementale Et du coup, qui m'ont orientée vers l'ADJI pour que je puisse un petit peu, enfin, pour que je puisse avoir des informations au niveau de l'entrepreneuriat, le financement et toutes les étapes qui a à faire avant d'arriver à l'étape finale, c'est-à-dire ouvrir l'atelier.
Alors, combien ça coûte de créer son entreprise? Je parlais tout à l'heure des différents matériels et les outils que vous avez. Il faut arriver avec une enveloppe qui représente quoi?
Alors, pour mon cas, je suis arrivée avec rien du tout, honnêtement. Et du coup, il a fallu que je fasse appel à l'ADJI, qui, eux, aident les jeunes qui veulent entreprendre. Et puis, pour ma part, j'ai fait un prêt de 3 000 euros, mais on a 2 000 euros de prêt en réalité, et puis on a 1 000 euros d'aide du département. D'accord. Et du coup, moi, c'était pour financer ma machine professionnelle. L'idée de départ, c'était ça, parce qu'elle coûtait 2 000 euros. Et puis, pour acheter un petit peu le mobilier, par contre, j'ai fait du second main, hein. C'est en super état. Et puis, voilà, on essaie de se débrouiller comme on peut, parce que je voulais pas non plus m'endetter, prendre un prêt énorme, et qu'après, tout ce que je peux gagner, il va falloir que je donne au prêt, je rembourse. Donc, voilà, j'ai fait un petit prêt, mais je sais qu'ils font des prêts beaucoup plus importants que celui-là.
Alors, l'ADJI, ils vous suivent comment? Comment ils vous accompagnent? Est-ce qu'on regarde ensemble les besoins? Est-ce qu'on refait des devis pour des machines professionnelles? Expliquez-nous un peu avec quoi vous êtes arrivé à l'ADJI et puis avec comment vous avez été accompagné.
Alors, du coup, moi, j'ai demandé un rendez-vous à Céline et qui m'a conseillé de faire un business plan d'abord avec Dominique de l'ADJI. Et du coup, on a fait le business plan, on a chiffré tout ce que j'avais à faire. Et du coup, on a vu quel budget il me fallait, quel budget minimum qu'il me fallait. Puis j'ai vu ça avec l'ADJI qui m'ont accordé, parce qu'il y a des conditions quand même. Il faut avoir un garant si jamais on n'a pas de ressources. Et puis voilà, ils regardent si tout rentre dans les cases et ils donnent très vite le crédit. Hein.
Alors, maintenant que vous avez ouvert votre atelier, qu'est-ce que vous pensez finalement de cet accompagnement-là? S'il n'existait pas, vous n'auriez peut-être pas ouvert. Et quel bilan vous faites après 2 mois d'ouverture? Est-ce qu'on est un peu craintif? Expliquez-moi.
Alors oui, on est toujours craintif parce que comme c'est le début, je ne sais pas de quoi il fait demain. Mais honnêtement, ils sont super bien, ils sont à l'écoute et elle est passée d'ailleurs là il y a pas longtemps, elle est venue voir, elle donne des conseils et moi elle m'a dit si jamais il y a des soucis de financement, de remboursement et tout, que j'hésite pas du tout à lui dire, qu'on voit ça ensemble. Et ils sont vraiment de bons conseils quoi. Et sans eux, franchement, j'aurais peut-être pu ouvrir. Mais pas cette année.
D'accord. Et la clientèle, alors, comment ils vous voient ici?
Alors, franchement, la clientèle, elle est bien. Je ne suis pas encore connue, hein, parce que je n'ai pas fait beaucoup de pubs. Mais ceux qui sont venus me voir, ils sont super bien. Et on collabore vraiment bien. Tout se passe bien.
C'était La Voix de l'Emploi, une série d'émissions consacrée à la valorisation des acteurs de l'économie, de l'emploi et de l'insertion. Ce projet, réalisé par Radio Ondaine, est financé dans le cadre de la politique de la ville par l'État et Saint-Étienne Métropole.